affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Lors d'un discours prononcé lors de l'inauguration de l'institut qui porte son nom, Pasteur déclarait en novembre 1888 « Je dirais que deux lois contraires semblent aujourd'hui en lutte, une loi de sang et de mort, qui en imaginant chaque jour de nouveaux moyens de combat, oblige les peuples à être toujours prêts pour le champ de bataille, et une loi de paix, de travail, de salut qui ne songe qu'à délivrer l'homme des fléaux qui l'assiègent. La loi dont nous sommes les instruments cherche même à travers le carnage à guérir les maux sanglants de cette loi de guerre. Les pansements inspirés par nos méthodes antiseptiques peuvent préserver des milliers de soldats. Laquelle de ces deux lois l'emportera sur l'autre ? Dieu seul le sait. » Pasteur sera décédé lorsque le premier conflit mondial se déchaînera et ravagera l'Europe. Toutefois, nous qui voyons cela depuis le 21e siècle, nous pouvons dire que les deux lois se sont probablement vérifiées. D'une part, la loi de mort et de carnage qui, bien entendu, a caractérisé ces années, mais aussi la loi de vie et les tentatives merveilleuses de soulager les souffrances de l'humanité, de la guérir. Et cela, c'est grâce notamment au génie de Pasteur, toujours vivant, à travers ses lieutenants, ses équipes et son institut, qu'il était possible de le vérifier. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur l'action de ces hommes durant le premier conflit mondial, dans les tranchées, à l'arrière et dans les laboratoires, pour mettre au point tout un nombre de traitements, aussi de méthodes et d'organisations nouvelles pour soigner les soldats dans ces années terribles. Et nous allons le faire en compagnie de Maxime Schwartz. Maxime Schwartz, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Monsieur, vous êtes ancien directeur général de l'Institut Pasteur, vous êtes membre correspondant de l'Académie des sciences, biologiste moléculaire, et vous venez de publier avec Annick Perrault « Le génie de Pasteur au secours des poilus », publié avec une préface d'Éric Orsenna, membre de l'Académie française, aux éditions Odile Jacob. Alors, monsieur Schwartz, pour commencer, je voudrais que vous nous situiez où en était le jeune Institut Pasteur lorsque ce premier conflit mondial se déclenche. Est-il peut-on comparer à celui qui existe aujourd'hui? Quelle était sa physionomie, ses moyens et son état d'esprit?
Bon, l'Institut Pasteur, comme vous venez de le rappeler, a été créé, inauguré en 1888. Donc en 1913, on a fêté le 25e anniversaire de l'Institut Pasteur. Alors cet institut était évidemment beaucoup plus petit qu'il n'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a entre 2500 et 3000 personnes qui travaillent à l'Institut Pasteur. Au moment de la Première Guerre, donc au moment du 25e anniversaire, c'était de l'ordre de 250 personnes à peu près. Vous avez rappelé le titre de ce livre que j'ai écrit avec Annick Perrault. Et on parle du génie de Pasteur et en fait, nous avons utilisé cette expression parce que lors de la célébration de ce 25e anniversaire de l'Institut, le président Poincaré était là, et dans son discours, il a répété à plusieurs reprises que le génie de Pasteur était toujours présent dans les différents laboratoires, dans l'hôpital, etc. Donc ce que nous essayons de montrer, c'est que le génie de Pasteur était aussi présent dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale.
Alors justement, lorsque le conflit se déclenche, que se passe-t-il à l'Institut Pasteur? Est-ce qu'il est d'emblée mobilisé pour ses capacités spécifiques, ou est-ce que ses membres sont dispersés dans les différents régiments, comme tant d'autres membres de tant d'autres professions?
Bien, au moment de la déclaration de guerre, donc au début du mois d'août 1914, un très grand nombre de pasteuriens sont mobilisés à différents titres, qu'il s'agisse des médecins, des chercheurs, sont envoyés, c'était pas encore les tranchées, mais sont envoyés à l'armée pour occuper différents postes. Mais, et donc il ne reste à l'Institut Pasteur, finalement, que les femmes qui étaient à l'époque très peu nombreuses, et puis les personnes qui étaient trop âgées pour pouvoir être mobilisées. Donc, d'un seul coup, l'Institut Pasteur est vidé, et ça pose un grand problème, parce que l'Institut Pasteur a plusieurs fonctions à remplir. Bon, il y a des fonctions de recherche qui sont ces fonctions permanentes, mais beaucoup de fonctions de production à l'époque. De production de vaccins, de production de sérums, nous y reviendrons plus tard. Et il n'y avait plus beaucoup de monde pour pouvoir remplir ces fonctions de production. Et en fait, assez rapidement, comme la progression de l'armée allemande est extrêmement rapide, on craint déjà vers le milieu du mois d'août que les Allemands n'arrivent à Paris et que donc l'Institut Pasteur se trouve dans l'incapacité de remplir ses fonctions. Donc un certain nombre de personnes vont être envoyées à Toulouse pour pouvoir continuer la production des sérums et des vaccins. Et ça va être les premières, disons, interventions de l'Institut Pasteur. On met à l'abri les hommes, mais aussi les chevaux, parce qu'il faut un très grand nombre de chevaux pour fabriquer des sérums. Tout cela est envoyé à Toulouse, et puis reviendra ensuite à Paris, après que la bataille de la Marne ait stoppé l'avancée allemande.
Oui, parce qu'au même moment, il faut rappeler qu'il n'y a pas que l'Institut Pasteur qui s'en va, si je me souviens bien, le gouvernement part à Bordeaux. Hein, c'est bien.
Oui, naturellement. Au moment où le gouvernement part à Bordeaux, l'Institut Pasteur part à Toulouse.
Et lorsqu'il est à Toulouse, il est donc mobilisé en tant qu'institut, en même temps que l'ensemble, qu'un grand nombre donc de ses membres sont eux mobilisés dans les tranchées, dans tel ou tel régiment. Alors dans un premier temps, on pourrait se dire, c'est quand même effroyable, voilà un condensé de compétences incroyables dans un domaine qui en temps de guerre est crucial, et pourtant la première chose qu'on a faite, c'est aller disperser toutes ces compétences, pour leur demander qui de tenir un fusil, qui un brancard, qui creuser une tranchée, que sais-je. C'est assez étonnant, donc moi ça m'a sidéré.
C'est étonnant, mais en même temps, il faut bien voir que personne n'imaginait que la guerre serait longue. L'idée générale était que ça allait être extrêmement rapide de repousser les Allemands. Donc au mois d'août, on ne s'est pas du tout organisé en vue d'une guerre longue. Et donc le problème que vous soulevez ne se posait peut-être pas avec autant d'acuité qu'il s'est posé par la suite. Mais il est remarquable que, en dépit du peu de moyens, l'Institut ait été capable de remplir toutes les missions sur lesquelles nous reviendrons. Je dois préciser que ce n'est pas tout l'Institut Pasteur qui a été délocalisé à Toulouse. L'Institut Pasteur est resté à Paris, mais on a envoyé les services de production de sérums et vaccins à Toulouse.
Alors, dans cette dispersion, finalement, il y a peut-être un bien pour un mal, c'est que l'ensemble de ces gens compétents, avisés, curieux, portés naturellement à l'innovation, découvre-t-on, vont se retrouver au contact du terrain et finalement peut-être être dans la meilleure situation pour répondre aux besoins nouveaux qui se posent, car faut-il le rappeler, la guerre 14-18 n'est pas une guerre comme les autres, c'est probablement la première guerre industrielle. Et la plupart des médecins militaires n'étaient pas préparés à découvrir ce qu'ils vont découvrir, c'est-à-dire des corps broyés et des blessures de nature totalement différente.
Oui, si on parle des blessés, c'est un aspect très important dans lequel l'œuvre pasteurienne va pouvoir se manifester, c'est qu'en fait, au début de la guerre, donc en fin août, début septembre, on ne se préoccupait finalement pas assez des blessés, et surtout lorsqu'ils avaient des blessures, eh bien la première mission, c'était de les évacuer, de les renvoyer vers l'arrière pour qu'ils puissent être soignés. Or, ceci était fait dans des conditions...
Et pour qu'ils ne gênent pas les troupes fraîches qui arrivaient.
Pour qu'ils ne gênent pas les troupes fraîches. Or, il faut bien voir que le gros problème dans ce genre de procédure, c'est que les blessures ont tout le temps de s'infecter. Et que finalement, quand les blessés arrivent à l'arrière, eh bien, leurs blessures sont infectées et ils sont à très grand risque d'avoir des septicémies, des gangrènes, etc. Et heureusement, un certain nombre de pasteuriens ont réagi contre ce genre de choses. Il y en a un qui n'est pas tellement connu comme pasteurien alors qu'il l'était, c'est Claudius Regaud, qui en fait avait été recruté par Roux pour...
Roux, c'était le patron de l'Institut à l'époque.
Roux, oui, ça, sur Roux, on y reviendra, parce que ça a été vraiment le deus ex machina de tout cela. Mais ce qu'avait fait Roux avant la guerre, ça avait été d'apporter son soutien à Marie Curie pour la création de l'Institut du Radium. Et il avait souhaité qu'à côté de l'Institut du Radium, il y ait un laboratoire Pasteur qui s'intéresse aux applications de la radioactivité à la médecine, dans le traitement du cancer, etc. Et il avait donc imposé finalement à Marie Curie la nomination d'un jeune médecin qui s'appelait Claudius Regaud, venant de Lyon. Mais celui-ci, à peine arrivé avec Marie Curie dans le nouveau laboratoire, se trouve effectivement mobilisé. Et bien sur place, c'est là qu'il se rend compte. Alors il y avait une formation pasteurienne, il avait suivi les cours de l'Institut Pasteur, etc. Il se rend compte que le traitement qu'on impose aux blessés est absolument catastrophique et qu'il faut non pas les évacuer immédiatement, mais faire tout ce qu'on peut pour les soigner immédiatement, pour éviter l'infection. Et au début, il va se heurter à toute l'autorité, la hiérarchie militaire, mais assez rapidement, on va se rendre compte qu'il avait raison. D'ailleurs, il y a tout un mouvement d'opinion qui s'est fait en France, où on était absolument scandalisé par la façon dont étaient traités les blessés. Et finalement, les initiatives de Claudius Regaud, en particulier, ont été reconnues comme valables, et on a commencé à faire le maximum pour soigner les blessés. Et plus tard...
Pour abonder dans votre sens, préciser que lorsque Georges Clémenceau, donc nous sommes, si je ne me trompe pas, en 1914, s'inquiète du sort qui est celui des blessés, son journal est fermé pendant plusieurs mois par la censure, parce qu'on estime que, j'imagine que ça, qu'on ne peut pas critiquer l'armée et qu'il ne faut pas casser le moral de la nation. Et quelques mois plus tard, après Clémenceau, Barrès lui-même s'écrit dans l'Écho de Paris « Les blessés sont faits pour être guéris ». Ça semble de la palissade, mais ça n'en est pas une, visiblement.
Non, ça n'en est pas une. Et Claudius Regaud, donc, au début de la guerre, a eu cette initiative qui visait à soigner les blessés le plus rapidement possible. Et plus vers la fin de la guerre, où il avait été devenu l'adjoint du secrétaire d'État à la santé au ministère de la guerre, il a créé ce qu'on peut considérer comme étant le premier CHU. C'est-à-dire qu'il a installé tout près du front, près de Reims, un hôpital où d'abord on soignait effectivement autant que possible les blessés rapidement, mais où en même temps on faisait un enseignement pour les médecins militaires, pour les mettre au courant des nouvelles méthodes qui étaient apparues au cours de la guerre pour soigner les blessés, et même les étudiants en médecine qui étaient mobilisés pour leur faire un enseignement. Je dois dire que dans cette question des blessures, on peut remonter à l'importance de travaux de Pasteur sur la découverte des bactéries anaérobies, c'est-à-dire des bactéries qui peuvent vivre en l'absence d'air, qu'il a d'abord identifiées dans des processus de fermentation, mais dont il s'est rendu compte ensuite que c'était des bactéries qui pouvaient poser de graves problèmes dans des blessures, justement, parce que s'il y a des blessures profondes, où il n'y a pas d'oxygène, ces bactéries peuvent se développer, et éventuellement, si ce sont des bactéries pathogènes qui font des toxines, etc., peuvent être très dangereuses. Et en fait, les bactéries qui provoquent la gangrène, ce sont des bactéries anaérobies du type de celles que Pasteur avait mises en évidence.
Oui, tant et si bien que lorsque on recousait à la hâte, j'imagine, les malheureux qui avaient ces blessures, en réalité, on causait leur perte en enfermant les bactéries.
Exactement. Il y a dans notre livre un chapitre sur la chirurgie et les autochires, qui ont été tout un système avec des ambulances automobiles qui allaient au plus près du front. Et l'objectif, c'était effectivement de soigner rapidement et correctement. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas de mettre la blessure à l'abri de l'air, mais au contraire, il fallait, autant que possible, laisser l'air pénétrer tant qu'on n'avait pas pu mettre suffisamment d'antiseptiques, etc., pour éviter que ces bactéries anaérobies ne se développent.
Il faut peut-être développer ce que sont ces autochires, parce que ça aussi, c'est une innovation qui est née du terrain. Oui, c'est ça que je trouve formidable, c'est qu'on découvre sur ce front des innovations qui viennent vraiment des problèmes rencontrés pratique immédiate, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la réflexion qu'on pourrait avoir dans un centre de recherche ou non, c'est le problème qui crée la solution et avec souvent beaucoup d'esprit d'innovation et aussi d'abnégation, puisque comme vous l'avez dit à propos de Regaud, il faut se heurter aux pesanteurs qui sont celles d'une administration, de l'habitude, toutes choses qu'on connaît peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs.
Ben, le cas des autochires, c'était le même problème. C'est une initiative, elle n'était pas pasteurienne initialement, mais des pasteuriens y ont contribué. Et là aussi, ça s'est heurté au début à la hiérarchie, d'autant plus que le médecin qui a proposé les autochires, le premier, qui s'appelle Marcil, en fait, n'était que l'équivalent de sous-lieutenant. Alors qu'un sous-lieutenant propose une modification complète des services de chirurgie sur le front, c'était pas très facile. Mais il faut voir que cette notion qu'il fallait intervenir vite s'est matérialisée dans au moins trois opérations. Les autochires, qui donc visent à opérer le plus rapidement possible sur le front, grâce à des ambulances automobiles. Avant, on installait des ambulances, donc des espèces de petits hôpitaux, pas trop loin du front, mais de façon stable. Tandis que là, les autochires pouvaient suivre le front. Il y a eu toutes les opérations de Marie Curie, les fameuses petites Curie, où là, c'était aussi des automobiles qui allaient au plus près du front pour pouvoir apporter les bénéfices de la radiologie, c'est-à-dire pouvoir à la fois détecter où sont des fractures, détecter la position de balles ou d'éclats d'obus dans le corps des blessés. Et puis, une troisième opération sur laquelle nous allons sans doute revenir, ce sont les laboratoires mobiles mis au point par un dénommé Le Groux, qui était un pasteurien et qui visait à reconnaître la présence de bactéries et aussi au front, c'est-à-dire les risques d'épidémie d'une part et d'autre part les types de bactéries qui pouvaient infecter les blessures.
Oui, parce que de fait, nous avons commencé par les blessures qui s'infectaient, mais en réalité, les dangers touchent également les malheureux poilus, simplement parce qu'ils peuvent boire de l'eau infectée, du fait de la promiscuité, et toutes ces choses, et les conditions sanitaires assez déplorables sur la ligne de front.
Puisque vous mentionnez l'eau infectée avait un risque primordial, c'était la typhoïde. Une maladie qui aujourd'hui est oubliée, parce que, en tout cas chez nous, parce qu'il n'y a plus de typhoïde, la typhoïde se transmet justement lorsque l'eau potable est infectée finalement par des déchets d'excréments humains essentiellement. Et la typhoïde était extrêmement fréquente à l'époque de Pasteur. D'ailleurs, Pasteur, qui avait 5 enfants, a perdu 3 enfants, et sur ces 3 enfants qu'il a perdus jeunes, 2 sont morts de la typhoïde. C'est vous dire que c'était... Et son fils, qui a survécu, a failli aussi mourir de la typhoïde pendant la guerre de 70. Donc c'était une maladie extrêmement fréquente et qui apparaissait à cause de cette absorption d'eau contaminée. Eh bien, là aussi, il y a eu un rôle majeur des pasteuriens, parce que dans les toutes premières semaines de la mobilisation, il y avait une grande concentration de soldats dans des lieux plus ou moins confinés, et c'était un endroit idéal pour que la typhoïde se développe, et elle s'est développée. Donc on a commencé avec une épidémie de typhoïde. Et c'est là qu'a pu être mise en place une vaccination généralisée des troupes contre la typhoïde. Or, il faut voir que, d'une part, le premier vaccin contre la typhoïde a été inventé par Chantemesse, qui était un collaborateur de Pasteur, et ça date de 1888. Ensuite, il y a eu plusieurs améliorations qui ont été apportées, pas seulement par des Français, mais aussi par des Anglais et par des Allemands. Mais on avait une vaccination contre la typhoïde qui était efficace, même si elle avait des effets secondaires quelquefois assez désagréables. Et elle a été généralisée, rendue obligatoire pour les troupes, au mois d'avril 1914, juste avant le début de la guerre. C'est la fameuse loi Labbé. C'était la loi Labbé qui rendait obligatoire cette vaccination contre la typhoïde. Alors, à ce moment-là, on avait une vaccination, mais il fallait produire le vaccin. Et là, il y a eu d'une part une intervention du service de santé des armées, notamment au Val-de-Grâce, avec un dénommé Hyacinthe Vincent, et à l'Institut Pasteur Chantemesse, qui ont dû produire du vaccin contre la typhoïde en grande quantité. Et les statistiques montrent que ce vaccin a une efficacité considérable. On a vu quel a été le nombre de malades et de morts de la typhoïde dans les derniers mois de 1914, et puis ensuite, et on voit qu'il y a eu une chute considérable. Et on a estimé que ce vaccin contre la typhoïde avait dû en protéger à peu près 1 million de soldats de la typhoïde, et on aurait eu de l'ordre de 150 000 décès parmi ce million de soldats. Donc voilà une première implication très, très claire de l'Institut Pasteur, à la fois dans l'invention et la production du vaccin contre la typhoïde qui a protégé les troupes contre cette maladie.
Et dans le même cadre de cette guerre contre les microbes, cette fois, il y a l'invention également, si j'ai bien compris, de laboratoires de laboratoire volant, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de voir les substances qui permettent de vacciner, mais aussi de savoir contre quel microbe on va devoir se battre, c'est ça l'objectif.
Exactement ça. Bon, à l'époque, on ne savait reconnaître les différents microbes pratiquement qu'à l'Institut Pasteur à Paris. Or, il y avait à la fois des risques d'épidémie, de typhoïde, mais éventuellement de dysenterie et un certain nombre d'autres maladies. Il y avait ce problème d'épidémie à contrôler. Il y avait également la question de savoir quels étaient les microbes qui pouvaient infecter telle ou telle plaie quand on voyait une infection. Et pour ça, il fallait pouvoir réagir très vite et avoir des laboratoires d'analyse microbiologique au plus près du front. Et là, donc, Roux a chargé un de ses collaborateurs, René Legroux, de mettre en place des laboratoires mobiles, et c'est à l'Institut Pasteur, dans la cour de l'Institut Pasteur, qu'on a équipé des camions particuliers en leur donnant tout le matériel nécessaire, les produits nécessaires pour pouvoir détecter les différents types de bactéries. Et à chacun de ces laboratoires étaient affectés deux spécialistes capables d'effectuer ces analyses. Et donc chacune des armées françaises a eu son laboratoire d'analyse, et au fur et à mesure des besoins, l'Institut Pasteur a fourni à ses laboratoires le matériel, les produits nécessaires. Et ça, ça a joué un rôle extrêmement important et totalement méconnu pendant la guerre.
Oui, car on s'est rendu compte à l'époque, enfin, c'est dit plusieurs fois, précisé plusieurs fois dans l'ouvrage, que les maladies ou les mauvaises conditions sanitaires tuaient davantage que le feu ennemi.
Oui, ça a été le cas dans toutes les guerres antérieures. Il y a eu certainement plus de morts à cause de maladies infectieuses que de morts de balles ou de lisobus sont apparus en 1914.
Est-ce qu'on peut évaluer le nombre de vies épargnées grâce à l'ensemble des procédés mis en place? Est-ce que ça a été tenté?
Ça, c'est difficile. On peut le faire. Bon, ça a été fait sur certains cas précis. Je vous ai dit pour la typhoïde, on a évalué à 1 million de cas de typhoïde qui seraient sans doute produits sans la vaccination. Il y a un autre cas dont je peux parler maintenant qui a été majeur, où aussi on peut donner un chiffre, c'est le tétanos. Alors le tétanos, là encore, on n'a pratiquement plus de cas de tétanos dans notre pays, donc les gens ont oublié, mais c'est une maladie épouvantable. En fait, c'est dû à une bactérie anaérobie, donc comme celle qui donne la gangrène, une bactérie qui, lorsqu'elle pénètre profondément dans une plaie, et ça peut arriver aujourd'hui à n'importe qui, hein, dans un jardin, etc., parce que quand cette bactérie pénètre, elle se met à sécréter une toxine qui s'attaque au système nerveux et qui fait qu'on a des contractions simultanées de tous les muscles. Et donc, on ne meurt pas toujours, mais quand on meurt, ce qui est assez fréquent, c'est dans des conditions terribles où on a, si vous voulez, imaginez les membres avec à la fois les muscles des deux côtés, ceux qui font plier et ceux qui font, au contraire, déplier, qui se contractent en même temps. Donc, c'est une mort épouvantable. Or, il se trouve que cette bactérie se développe particulièrement bien dans l'intestin d'animaux et de chevaux en particulier. Or, il ne faut pas oublier que sur le champ de bataille, il y a eu, je crois, de l'ordre de 9 millions de chevaux qui ont été utilisés. Bon, pas tellement pour la cavalerie qu'on n'utilisait plus très assez peu, mais pour tirer les canons, pour tirer
l'intendance,
parce qu'on a parlé d'autochire, etc. C'était le début de l'utilisation d'automobiles, mais le cheval était encore extrêmement présent. Donc, il y avait énormément de crottins de cheval sur les champs de bataille. Le crottin de cheval est une source de la bactérie du tétanos. Par ailleurs, les nouvelles armes, notamment les obus, faisaient que les blessés recevaient des éclats d'obus qui étaient souillés par de la terre, et donc très souvent par du bacille du tétanos, et donc étaient à très grand risque d'attraper le tétanos. Eh bien, heureusement, avait été inventé, alors ça date de 1894, ce qu'on a appelé la sérothérapie antitétanique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, d'une part, il se trouve que ce sont des pasteuriens, dont le fameux Émile Roux, qui était donc, au moment de la guerre, directeur de l'Institut Pasteur, mais en 1894, il faisait des recherches sur la diphtérie et sur le tétanos, et il avait montré, avec Alexandre Yersin, le même qui devrait découvrir les bacilles de la peste quelques années plus tard, enfin non, à ce moment-là d'ailleurs, parce que la découverte de la toxine, ça date de 1888. Donc Roux et Yersin ont montré que la bactérie qui donnait la diphtérie, mais c'est la même chose pour le tétanos, sécrétait une toxine. Bon, quelqu'un d'autre a montré que le tétanos aussi avait sécrétion d'une toxine. Et ensuite, alors ça a été une étape très importante, les Allemands, donc Behring et Kitasato, ont montré que si on inactivait un peu la toxine de telle sorte qu'elle ne soit pas trop méchante, et qu'on injectait cette toxine partiellement inactivée à des animaux, eh bien les animaux étaient immunisés contre la maladie. Et bien plus, on trouvait dans le sang de ces animaux qui apparaissait comme une antitoxine, un antipoison. Alors, ils se sont dit, ben, si on utilisait cet antipoison pour guérir les gens qui ont les enfants qui ont les diphtéries, on va peut-être les guérir. Et c'est ce que aussi l'idée de Roux en parallèle. Donc, d'une part, les Allemands avec Behring et les Français avec Roux ont fait ce qu'on appellerait aujourd'hui un essai clinique qui visait à soigner les enfants atteints de diphtérie avec du sérum provenant d'animaux, en l'occurrence des chevaux, qui avaient été immunisés avec la toxine. Et de cette manière-là, ils sont arrivés à sauver un très grand nombre d'enfants atteints de diphtérie. Alors j'en reviens au tétanos, mais les études ont été parallèles. Dans le cas du tétanos, on ne peut pas attendre que les gens aient le tétanos si on injecte, et ça c'est Roux qui l'a montré, si on injecte l'antipoison, l'antitoxine, c'est des ans que déjà le tétanos, c'est trop tard. La toxine a déjà commencé à agir. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est dès qu'il y a eu infection, donc par exemple une blessure, si tout de suite on injecte du sérum antitétanique, on empêche la toxine d'agir et on va empêcher que les gens ont le tétanos. Donc cette découverte qui a été faite en parallèle par les Allemands et par l'équipe de Roux, Institut Pasteur, a été utilisée pendant la Grande Guerre et l'Institut Pasteur a produit des millions de doses de sérum antitétanique de manière à pouvoir soigner les blessés. Donc dès qu'un blessé arrivait, on lui inoculait le sérum antitétanique et comme ça il n'avait pas le tétanos. Et dans ce cas-là, on estime qu'il y aurait eu plusieurs millions de soldats qui auraient attrapé le tétanos pour les raisons que je vous ai données et qui seraient morts du tétanos. Donc ça a été une autre intervention majeure de l'Institut Pasteur pendant cette guerre.
Vous avez évoqué le nom de Behring, une sorte d'alter ego germanique des chercheurs français qui ont travaillé donc sur le tétanos et surtout sur la mise au point d'un sérum permettant de le soigner. Quelles étaient dans ces années-là les relations entre les scientifiques allemands et français, les chercheurs et les médecins des deux camps?
Ben, c'est assez intéressant, parce qu'il faut d'abord rappeler que Pasteur lui-même était extrêmement anti-prussien, anti-allemand. Ça datait de la guerre de 70. Il en a toujours voulu profondément aux Allemands d'avoir gagné cette guerre, finalement, la guerre de 70. Et ça a été vrai jusqu'à la fin de sa vie.
Oui, il disait, j'ai découvert qu'il disait après cette défaite de 1870, désormais tous mes travaux seront placés sous le signe de
haine à la Prusse, vengeance. Exactement. Donc Pasteur était très profondément anti-prussien, anti-allemand, et jusqu'à sa mort. Alors pour ses élèves, c'était un peu différent, et on peut parler du cas de Roux, parce que ça va nous amener à Behring. Roux, au moment de la guerre, a aussi été, de la guerre de 70 alors, était très anti-allemand. Il a perdu deux de ses frères pendant la guerre de 70. Donc pendant un certain temps, il n'était pas plus ami des Allemands que ne l'était Pasteur. Mais progressivement, il a su mettre de l'eau dans son vin et essayer d'arranger les choses. Et puis est arrivé ce travail sur la toxine, sur l'antitoxine que je viens de mentionner, et où finalement Behring est arrivé, il avait l'idée de faire un sérum antitoxique, enfin d'essayer d'immuniser contre les toxines, mais il n'a pas pu. Il se trouve que Yersin, à ce moment-là, était parti en Extrême-Orient, lui était extrêmement débordé, donc il n'a pas pu faire avancer les travaux, et c'est Behring qui est arrivé le premier à trouver l'immunisation contre la diphtérie et le tétanos et la sérothérapie. Donc il y aurait pu y avoir une rivalité considérable entre Roux et Behring. Mais Roux était pas comme ça et il a été extrêmement fair play avec Behring. Ils ont reçu par exemple conjointement un prix Alberto Levi, ça s'appelait, de l'Académie des sciences. Et Roux a écrit à Behring en lui disant « Mais en fait, bon, je suis très honoré d'avoir partagé le prix avec vous parce que c'est vous qui avez fait la découverte, je ne suis que votre élève. » Et donc les relations entre Roux et Behring ont été excellentes au point que Roux a proposé d'être le parrain du premier fils de Behring, ce qu'il a été.
Qui a accepté.
Qu'il a accepté, et on montre dans notre livre une lettre envoyée par Madame Behring, et se félicitant de cette proposition de Roux, et invitant Roux à venir pour le baptême. Donc, Roux s'était vraiment rapproché de Bering, et on peut dire que c'est bon, il y a un autre grand pasteurien qui s'appelle Metchnikov. Il n'était pas français, donc il était peut-être d'origine russe, donc il était peut-être moins impliqué, disons, que les bons français comme Roux, mais il a toujours essayé de faire un peu le go-between entre les Français et les Allemands. Donc, il y avait quand même globalement, après
la Russie, Pasteur, était engagée aussi dans
oui,
le conflit.
C'est sûr, c'est sûr. Globalement, disons, 20 ans, à, bon, 70, c'est même plus que 20 ans, mais enfin 20 ans après la mort de Pasteur, donc on arrive à la guerre de 14, les relations entre les scientifiques de l'Institut Pasteur et les scientifiques de l'école allemande étaient quand même relativement bonnes. Mais la déclaration de guerre a naturellement changé tout au tout, et les Français, les scientifiques de l'Institut Pasteur comme les autres, sont devenus extrêmement patriotiques, nationalistes, et n'avaient plus qu'un objectif, c'était défendre la France contre ceux qu'on appelait les Boches.
Oui, vous citez de nombreuses déclarations au sujet sur l'ambiance qui régnait à l'époque. Si vous me permettez, je vais en lire une seule pour se rendre compte de l'effet de cette fièvre, cette autre fièvre, que peut-être la fièvre patriotique, là pour le pire, et on verra ensuite aussi pour le meilleur. Voici donc la façon dont nous parlions de nos voisins dans ces époques troublées. Ce peuple, il s'agit du peuple allemand, ce peuple qui méritait l'estime du monde pour l'œuvre de progrès intellectuel et social accompli par ses savants, ses philosophes, ses musiciens, ses poètes, ne peut plus inspirer que des sentiments de dégoût et d'effroi pour des crimes dont il s'est rendu coupable. Sauf de très rares exceptions, le cœur allemand est inaccessible aux sentiments nobles, généreux ou simplement humains. Et il conclut... Aussi sommes-nous résolus à ne collaborer désormais à aucune publication allemande, à ne participer à aucune réunion scientifique, à aucun congrès international aux côtés de collègues allemands qui n'auraient point préalablement marqué par une manifestation publique leur désapprobation des actes antisociaux accomplis à l'occasion ou au cours de cette guerre par leur gouvernement. On est loin de la communauté scientifique internationale au lendemain de ce conflit.
Sûr. C'est sûr. Il faut dire que Roux, un peu comme Pasteur, avait une attitude qui n'est pas toujours facile à comprendre. C'est-à-dire qu'il considérait que la science n'a pas de patrie. C'est ça qu'avait dit Pasteur. Pasteur disait que la science n'a pas de patrie, mais les scientifiques en ont une. Ce n'est pas la citation exacte, mais ça veut dire ça. Et Roux, c'était un peu ça. Il aurait espéré que les relations scientifiques puissent se maintenir en dépit de la situation quelquefois extrêmement tendue qu'il pouvait y avoir entre les pays. Et lorsque les académies ont signé ces manifestes en réponse au fameux manifeste des 93 des Allemands, il a été extrêmement réticent. Il trouvait que la science devait être au-dessus de ces problèmes. Mais bon, tout ce n'était pas comme ça. Et Chantemesse, par exemple, que j'ai cité à propos du vaccin contre la typhoïde, a écrit dans un journal qu'il dirigeait, lorsque Bering est mort, ça devait être en 1916 ou quelque chose comme ça, que ça fait un Boche de moins. Et quand même, quand on pense que Bering a été, tout comme Roux, à l'origine de la sérothérapie qui a sauvé un très très grand nombre de personnes... c'est un petit peu malvenu, disons, de la part d'un scientifique. Mais voilà, c'était l'état d'esprit.
À l'inverse, pour parler des effets potentiellement positifs de cette fièvre patriotique, ce qui est frappant, c'est le courage incroyable dont ont fait preuve tous ces gens au feu. Vous publiez un nombre incroyable de lettres ou de documents expliquant que les pasteuriens, qui auraient pu finalement assez facilement se retrouver affectés à des hôpitaux à l'arrière, ou du moins pas sur la ligne de front immédiate, réclament sans cesse d'être au plus près des soldats, d'être affectés soit dans des unités combattantes, ou d'être ambulanciers au front à Verdun. On connaît la dangerosité, et dans des lettres extrêmement poignantes, s'excusant auprès de leurs épouses de demander cela alors qu'ils connaissent les dangers, mais expliquant qu'ils ne pourraient pas se regarder dans un miroir s'ils ne le faisaient pas. Quelle époque !
Oui, c'est certain. Et bon, il se trouve que, bon, là vous citez une lettre de quelqu'un qui se trouve être mon grand-père, qui n'était pas strictement pasteurien, mais très proche des pasteuriens, qui s'appelait Anselme Schwartz, et qui était en fait le beau-frère de Robert Debré. Robert Debré a beaucoup travaillé avec les pasteuriens, même s'il n'était pas strictement pasteurien. Et Robert Debré, dans son livre, il écrit Le nom de son livre m'échappe à l'instant, mais ça fait rien. Si l'honneur de vivre. Il écrit qu'il ne voulait pas être affecté au laboratoire de microbiologie dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est le laboratoire mis en place par Le Groulx, parce que quand même, les laboratoires, ils ne sont pas juste sur le front. Sans ça, il y aurait trop de risques de se faire démolir. Donc, ils sont juste un petit peu en retrait du front. Mais Robert Debré ne voulait pas être dans ces laboratoires. Il voulait être avec les troupes, le médecin qui va soigner les blessés immédiatement.
Et en sachant parfaitement ce qu'ils allaient trouver, donc... Écoutez, finalement, j'ai envie de lire à la fois un témoignage de Robert Debré et ensuite la profession de foi d'Anselme Schwartz à destination de son épouse. Voici donc, pour commencer, la lettre écrite par Anselme Schwartz à son épouse. « Mercredi 8 mars 1916, tu me dis que tu ne supporteras plus longtemps la séparation et tu as, je le sais, depuis longtemps l'arrière-pensée que j'aurais dû, puisque les règlements le permettent, retourner à l'intérieur. » Eh bien, mon beau bijou, crois-moi que si jamais il devait m'arriver un malheur, ne te fais pas et ne me fais pas de reproches. Ma place est sur le front et ce sont mes collègues qui sont à l'intérieur, qu'il ne faut pas leur devoir. Je ferai sans doute du bien à l'intérieur dans un hôpital, mais moins qu'ici, et tous les jeunes chirurgiens devraient faire comme moi. Donc si je reste ici, malgré les quelques risques que je cours, c'est que ma conscience me le commande. Et si je partais... Je ne pourrais jamais m'empêcher de me dire que je me suis sauvé devant le danger pour m'abriter à l'intérieur. À l'heure où toute la France est debout, chacun doit être à son poste, je suis au mien. Réfléchis, mon petit, et tu seras de mon avis. Tu sais combien je t'aime et combien il faut que je sois sûr de ce que j'avance pour le dire. Tout cela n'est évidemment pas anodin, car ce que réclame donc Anselme Schwartz, c'est d'être placé dans la situation décrite dans cet autre courrier par Robert Debré que vous avez... cité à l'instant, voici donc cette lettre de Robert Debré. Ma mémoire est remplie par des images poignantes. Dans les combats, la chute des corps brusquement projetés en avant, ou bien s'affaissant sur eux-mêmes, avec le sang qui coule, les corps déchiquetés, retombant brisés, en morceaux, les arrachements des membres, les horribles déchirures des faces, l'ouverture des ventres et le mélange de boue, de sang, de matière, de lambeaux, de vêtements, les crânes ouverts et la masse cérébrale broyée. Dans le fracas, on arrive à percevoir les cris de douleur. Au cours d'un combat sous Verdun, nous les entendons. « Sortons de la tranchée, allons-y, dis-je. » « Un instant, mon lieutenant, me dit mon brigadier infirmier. » Ce terre s'attire trop fort. Nous entendons cet appel. « Maman, maman, comment résister alors ?» L'homme partout blessé gisait au milieu des fils de fer barbelés. Sur les champs de carnage où l'on continue à se battre, avec la terre bouleversée par les trous d'obus, une odeur nauséabonde se dégage des cadavres, de chevaux, les quatre fers en l'air avec leurs membres raides et leurs ventres pourris. On marche sur des cadavres d'hommes restés sur place, ne sachant lorsqu'un obus arrive où se coucher pour éviter les éclats. Voilà l'enfer dans lequel ces hommes réclament d'être projetés par sens du devoir.
Oui, on a du mal à imaginer ça.
Ça nous laisse sans voix, d'autant que l'horreur n'en reste pas là. La guerre 14-18, on l'a vu, on le pressent. Une des premières guerres industrielles, là on voit les effets de l'artillerie, j'imagine. Mais c'est aussi la première guerre où on utilise des gaz de combat. Comment réagiront les pasteuriens face à cette nouvelle arme particulièrement abominable et peu chevaleresque?
Oui, alors ça c'est un sujet évidemment qu'on aime moins aborder que celui des sérums et des vaccins et des laboratoires avec nos yeux d'aujourd'hui. Il faut bien voir que au début, assez rapidement, au début de la guerre, des deux côtés, que ce soit en Allemagne ou en France, on a pensé à utiliser des gaz, mais l'idée de départ n'était pas d'aller tuer l'ennemi avec les gaz, c'était en fait la suite de stratégies assez habituelles en cas de guerre de siège, puisque là on est dans la situation rapidement des tranchées qui se ressemble à une guerre de siège. C'est de faire sortir l'ennemi de l'endroit où il est assiégé pour pouvoir lui tirer dessus. En gros, ça a toujours été une stratégie militaire. Donc là, il s'agissait, notamment du côté français, et un des artisans importants est un pasteurien qui s'appelle Gabriel Bertrand, qui a été un très, très grand chimiste, qui a fait des très grandes choses avant et après la guerre. Il s'agissait de trouver des gaz qui soient irritants, un peu comme ceux que la police doit utiliser aujourd'hui dans les manifestations, pour faire sortir les Allemands.
Comme un renard de son terrier.
Exactement, faire sortir un renard de son terrier pour pouvoir les tirer dessus. En gros, c'était ça l'idée de départ. Et il faut, en toute honnêteté, dire que c'était des deux côtés que ça se faisait. Et ça faisait partie, disons, du désir de vouloir défendre la patrie. Il n'y avait pas qu'à soigner les gens, il fallait aussi pouvoir se défendre. Mais alors, ce sont quand même les Allemands qui, les premiers, en avril 1915, ont utilisé un gaz toxique, dans ce qu'on appelle l'hyperite aujourd'hui, puisque c'était à Ypres que ça a été utilisé pour la première fois, un gaz qu'ils ont envoyé avec des tuyaux, c'était des nuages jaunes qui restaient au niveau de la terre et qui allaient jusque dans les tranchées et qui ont fait un nombre de morts considérable. On a parlé, je crois, de l'ordre de 5000 morts lors de cette première attaque due à ces gaz. Donc, à partir de ce moment-là, du côté français, on a aussi cherché à se défendre. Et donc, il y a eu des travaux importants qui ont été faits, tout particulièrement par l'équipe de Gabriel Bertrand, pour trouver des gaz qui permettent de se défendre. Et ça a été la guerre des gaz. Alors, il faut dire, c'est une chose extrêmement négative, très mal perçue aujourd'hui. En fait, il semble que le nombre de victimes réelles des gaz n'ait pas été trop considérable. C'est sûr qu'il y a eu il y a eu des morts. Les morts ont été tellement nombreux pendant cette guerre que quand on compte en quelques milliers, on dit que c'est pas grand-chose, puisque il y a quand même eu, pas loin de 10 millions de morts au total. Mais enfin, ça n'a pas été un facteur majeur de mortalité pendant la guerre. Mais il y a quand même eu beaucoup de gens qui ont eu des séquelles après, etc. Alors, à l'Institut Pasteur, on a travaillé à la fois sur la recherche de gaz pour se défendre, mais en même temps sur l'amélioration des masques à gaz pour pouvoir protéger les troupes contre les gaz. Et donc, il y a eu un masque qui s'appelait Javillier, un autre chercheur, qui a été extrêmement répandu dans l'armée à l'époque. Donc, on a participé à l'Institut Pasteur à cette guerre des gaz. Les gens ne pouvaient pas vraiment faire autrement. Et il faut voir d'ailleurs que, aujourd'hui, ça nous semble extrêmement répréhensible, mais il faut voir que les chercheurs, aussi bien allemands que français, qui avaient fait cela, ont ensuite eu les plus grands honneurs, pas à cause de ça, mais parce qu'ils étaient des très grands scientifiques. Du côté allemand, c'est un nommé Haber, qui a eu ensuite le prix Nobel, parce qu'il a fait, par exemple, c'est lui qui a trouvé comment on pouvait faire de l'ammoniac par voie chimique, et ça c'était très important pour les engrais azotés. Il a fait aussi beaucoup d'autres choses. Il faut dire que du côté allemand, Haber avait une femme qui était aussi chimiste et qui était scandalisée que son mari se consacre à cette guerre des gaz, et elle était tellement scandalisée qu'elle s'est suicidée à cause de ça. Donc il n'avait pas un soutien familial considérable. Mais donc Haber, qui a été un artisan majeur des gaz de combat du côté allemand, a été reconnu comme un très grand scientifique et a eu le prix Nobel après la guerre. Et du côté français, Gabriel Bertrand, qui a fait la même chose en défense, il faut bien le reconnaître, a aussi été un très grand scientifique. Il n'a pas eu le prix Nobel, mais il a eu beaucoup de témoignages de reconnaissance de la communauté scientifique.
Au fond, pour en revenir à la déclaration initiale de Pasteur, son interrogation sur les deux lois menant ou s'emparant de l'humanité à cette époque, mais probablement de tout temps, on est un petit peu conduit à penser au fil de l'ouvrage en conclusion que la guerre finalement révèle à la fois ce qu'il y a de plus, c'est une banalité aujourd'hui de le dire, à la fois ce qu'il y a de plus haut et de plus noble dans l'humanité et aussi de plus, probablement de plus navrant, et que les scientifiques tout simplement n'y échappent pas parce que ce sont des hommes.
Oui, mais à cet égard, il faut vraiment tirer un coup de chapeau à Émile Roux, qui est extrêmement méconnu, qui a été un très très grand homme, à la fois du point de vue scientifique et comme directeur de l'Institut Pasteur. Il a été directeur pendant presque 30 ans, ce qui est considérable. C'est lui qui a vraiment créé ce qui a été l'esprit pasteurien. Et pendant la guerre, ça a été vraiment, comme je l'ai dit, le Deus ex machina, il a vraiment tout organisé. C'était quelqu'un d'absolument extraordinaire, et on essaye de le faire ressortir dans ce livre-là.
Eh bien, c'est tout à fait perceptible, et ce qui est perceptible aussi, c'est qu'effectivement, l'aventure militaire, mais aussi l'aventure scientifique, et peut-être l'aventure humaine, tout simplement, est une aventure décidément collective, et que si certains noms résonnent davantage, ou on retrouve un écho fort dans notre mémoire, c'est l'ensemble, finalement, des équipes, de ses successeurs qui mériteraient qu'on se souvienne d'eux, de leur sacrifice, de leur engagement, car au-delà de l'engagement physique dans les tranchées, comme nous l'avons vu, il y a aussi ce travail acharné et cette conscience aiguë de leur devoir à l'égard de leur pays, mais aussi de l'humanité entière, qui est très perceptible. Et d'ailleurs, pour peut-être terminer sur une note optimiste, tous ces travaux accomplis dans ces circonstances effroyables, rassurez-nous, ont bien sûr eu des applications par la suite en temps de paix, ont été bénéfiques à l'humanité, non ?
Oui, il y a effectivement eu des conséquences bénéfiques, heureusement. Comme vous le dites, c'est la seule chose positive que l'on puisse dire.
Merci beaucoup Maxime Schwartz d'avoir passé cet instant avec nous pour nous rappeler donc l'aventure des pastoriens dans la guerre 14-18. Pour tous ceux qui seront intéressés à creuser ce sujet, et je ne doute pas qu'ils seront nombreux, je les incite à se retourner donc vers cet ouvrage passionnant, illustré, fouillé, vivant et très instructif, Le génie de Pasteur au secours des poilus, par Maxime Schwartz et Annick Perrault aux éditions Odile Jacob. Merci encore.
Merci à vous.